Europe 1, 14h-15h, clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Même pendant ce confinement et même si les salles sont fermées, le cinéma continue d'exister. Aujourd'hui, on va d'ailleurs se poser une question. Comment représenter les Noirs sur grand écran alors que sort le DVD du film Tout Simplement Noir? Vous l'aviez peut-être découvert en salle en juillet dernier. Est-ce que les choses sont en train de changer? On se rappelle qu'en 2018, 16 comédiennes noires montaient les marches à Cannes, menées par Aïssa Maïga, qui avait publié le livre Noir n'est pas mon métier. On se rappelle aussi du discours de Maïmouna Doucouré au César. Bref, vraie prise de conscience, va-t-on vers un changement durable dans le milieu du cinéma? Ce sera l'objet de notre récit dans quelques instants. 14h30, les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est le dessinateur, auteur, cinéaste Johan Sfar qui nous racontera ses souvenirs de cinéma. Le film qui le fait le plus rire ou le plus pleurer, son film honteux, la bande originale qui a marqué sa vie aussi. Et puis juste après, on accueillera nos critiques pour débattre des dernières sorties sur vos plateformes, ainsi qu'en VOD, DVD. Au programme aujourd'hui, le remake de Rebecca sur Netflix, tout comme La vie devant soi, que vaut cette nouvelle adaptation du roman de Romain Gary. Et puis on l'attendait, il est là, le premier film qui se passe pendant le confinement. C'est Connecté, disponible sur Amazon Prime Video. On vous dira ce que ça vaut. Voilà pour le programme de Clap et tout de suite donc notre récit consacré au noir au cinéma.
Europe 1. Le récit.
Dès les années 1900 et l'invention du cinématographe Lumière, les Noirs sont présents sur grand écran, et pas sous leur meilleur angle. Rappelez-vous, Foutite et Chocolat. Foutite, le clown blanc, et Chocolat, le clown noir, l'imbécile, celui qui se prend des gifles, et qui sert en fait à valoriser le clown blanc. En 2016, Roche Dizem consacrait un film à cette histoire, tout simplement titré Chocolat.
Toi, t'es le clown blanc, c'est ça?
Oui, toi, t'es l'Auguste, le pitre, celui qui fait l'idiot. D'habitude, en scène, c'est l'un ou l'autre, jamais les deux en même temps.
Faire chacun son tour?
Non, justement, mon idée, c'est de les associer. Pour la première fois, on les ferait jouer en duo. Sur la piste, on deviendrait les deux faces d'une même pièce, totalement différents, mais indissociables.
Indissociables?
Unis, comme ça.
Et pour incarner ce clown Chocolat, Omar Sy, il en parlait au micro d'Europe 1.
C'est pour ça que j'ai accepté le film, c'est réparer une forme d'injustice. Quand on a fait quelque chose comme ça, qui est assez historique, assez fort, pour un descendant d'esclaves arriver où il est arrivé lui, arriver à faire ce qu'il a fait artistiquement et son parcours d'homme, ça mérite d'être raconté. Et je trouve ça injuste que pendant un siècle, on ait complètement oublié.
Ce dont il faut se souvenir, c'est qu'à la naissance du cinéma, la France est en pleine expansion coloniale. En 1900, le domaine colonial français est le deuxième plus grand d'Europe, après celui du Royaume-Uni. Le cinéma est donc, une nouvelle fois, le reflet de la société et des croyances de l'époque, aussi triste soit-elle. On en est encore à l'époque du chocolat avec un noir sur l'emballage et ce sous-titre « Battu et heureux » ou du « Ya bon banania ». En 1936, se tiendra même à Paris l'exposition coloniale internationale. Alors on va faire un bond dans le temps pour s'intéresser au combat des acteurs et réalisateurs noirs. En France, on pourrait le dater à l'année 2000, lorsque les metteurs en scène Luc Saint-Éloi et Calixte Beyala s'emparent de la scène des Césars pour réclamer plus de diversité devant un Alain Chabat en maître de cérémonie pour le moins interloqué.
Imaginez dans ce pays, dans tous les cinémas, des écrans qui projetteraient exclusivement des histoires entre noirs pour des noirs à l'exclusion de toute autre couleur. Et vous, chers compatriotes, imaginez que vous soyez absent. Invisible. Imaginez seulement, mais rassurez-vous, ce rôle d'absent, c'est nous qui l'interprétons.
Aux États-Unis, c'est Chris Rock qui joue les maîtres de cérémonie des Oscars et qui souligne lui aussi le manque de noirs dans les nommés, appuyé par Joaquin Phoenix, qui encore en février dernier, lorsqu'il reçoit le BAFTA du meilleur acteur pour son interprétation du Joker, prend la parole.
Je me sens très honoré et privilégié d'être ici ce soir. Et j'en suis profondément reconnaissant. Mais je dois dire que je me sens également en conflit parce que tant de mes collègues acteurs qu'ils méritent n'ont pas le même privilège. Je pense que nous envoyons un message très clair aux personnes de couleur qui est « Vous n'êtes pas les bienvenus ici ». Je pense que c'est le message que nous envoyons aux personnes qui ont tant contribué à notre industrie et nous en bénéficions tous. Je pense que nous devons vraiment travailler dur pour vraiment comprendre le racisme systémique.
En fait, depuis les années 2000, les choses bougent. Trop lentement sûrement, mais elles bougent. Pourquoi ? D'abord, sans doute, parce que le monde entier consomme de la musique et plus largement de la culture made in black. Prince, Michael Jackson, Eddie Murphy, le prince de Bel Air. La France Black Bamber remporte aussi la Coupe du Monde de foot 1998. Et les Noirs commencent à accéder à de vrais rôles au cinéma, même si ce sont souvent les mêmes types de rôles. L'actrice Aïssa Maïga en parlait au micro d'Europe 1.
Il y a beaucoup de stéréotypes récurrents. La femme noire est soit la panthère, la lionne. Et sinon, quand elle prend de l'âge, voire de l'embonpoint, elle devient la mama en boubou avec un accent. Et ces questions de diversité, elles sont très importantes.
Même problème du côté des hommes, comme le raconte l'acteur-réalisateur Lucien Jean-Baptiste dans le documentaire « Où sont les Noirs ?» signé Rokhaya Diallo, que nous recevrons tout à l'heure.
Souvent, les rôles qui étaient un peu caricaturaux, stéréotypes, c'était le noir de banlieue, le sans-papier... Et moi, j'arrivais, bonjour, avec mon petit timbre de Gaulois, là. Et souvent, hein, on m'a dit, tu peux pas le faire un peu plus black ? Je disais, mais là, je sais pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ben non, je vois pas.
Écoutez maintenant ce qu'en dit Noom Diawara, popularisé pour son rôle de gendre dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?
Alors, les premiers rôles que j'ai eus quand j'ai commencé, je m'en souviens, parce que la première fois, j'étais en prison. La deuxième fois, j'étais un sans-papier. Et la troisième fois, j'étais directeur d'une boîte de nuit antillaise. Bon, c'était... Voilà, c'est mes trois premiers rôles. Mais mon agent me l'avait dit. Il m'avait dit, écoute, je vais pas te mentir, il n'y a pas beaucoup de rôles pour vous les Noirs. Il y a beaucoup de séries policières en France, donc tu seras ou un suspect ou un coupable. Tu vas commencer comme ça au début. Mais non, ça s'arrête pas. C'est tout le temps la même chose.
Et la conséquence, c'est donc que les jeunes Noirs qui rêvent de cinéma n'ont pas de modèle auquel s'identifier. Que ce soit de modèle d'acteur ou de modèle de grand rôle d'ailleurs. Le cinéma leur apparaît donc comme un monde inaccessible. Alors c'est vrai que depuis quelques années, les choses semblent changer. Petit à petit, en 2012 par exemple, c'est Omar Sy qui est choisi pour interpréter le rôle de Driss dans Intouchables, adapté d'une histoire vraie, où Driss était en fait Abdel, un maghrébin. Et là, surprise, Intouchables dynamite le box-office et frôle les 20 millions d'entrées.
Vous avez des références ?
Ouais, des références, ouais, j'en ai. Je sais pas, Kool & The Gang, Arsenal Fire, c'est de bonnes références, ça, non ?
Je connais pas.
Non, si vous connaissez pas, c'est que vous y connaissez rien en musique.
Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical, même si je connais pas votre soul, je sais pas quoi.
Non, Kool & The Gang.
Et vous ? Vous connaissez Chopin, Schubert, Berlioz ?
Vous, là, ça m'étonnerait que vous connaissiez Berlioz.
Pourtant, je suis un spécialiste.
Vous connaissez qui, là-bas ? Quel bâtiment ?
Non, mais mon vieux, Berlioz, avant d'être un quartier, c'est un compositeur célèbre.
C'est une vanne. Je sais qui c'est, Berlioz. Et je vois que l'humour, c'est comme la musique. Vous y connaissez rien, en fait.
Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'à l'époque, on parle plus du fait que ce film fait évoluer le regard sur le handicap que du fait que c'est un acteur noir qui tient l'un des deux rôles principaux. Ces dernières années, plusieurs films et comédies mettant en scène que des noirs ont très bien marché au box-office, en tête desquels Black Panthers, un film de super-héros.
Moi, Zuri, fils de Badou, je vous présente le prince T'Challa, la panthère noire, l'issue. De ce combat rituel sera soit la reddition ou la mort.
Black Panthers qui est un succès mondial. En France, Lucien Jean-Baptiste réalise Première étoile, où il a déjà tes yeux, l'histoire d'un couple de Noirs qui adopte un enfant blanc. Et c'est là qu'on en vient à Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax qui sort en DVD. L'histoire de JP qui décide d'organiser la première marche de protestation noire en France et va faire appel à de nombreuses personnalités qui jouent dans le film leur propre rôle. Fari, Claudia Tagbo ou Fabrice Eboué.
Je suis noir.
Grand.
Voilà. Je suis noir.
Martin Luther King.
Je suis nègre.
Malcolm X.
Je suis un putain de nègre.
C'est ça.
Il faut qu'on soit soudés.
Ta marche, c'est une initiative de dingue.
Quelle marche ?
Les blancs sont interdits à ta marche.
Ils sont pas interdits.
Mais c'est pas conseillé.
Ils sont pas conseillés.
Ouais. Non, ils vont pas se faire frapper.
Il y aura pas une bonne ambiance.
Voilà, je vais faire une marche, moi, de mon côté, avec les Indiens.
Soirée entre nous.
Vous niquez votre marche de renom.
L'idée du film, au-delà de faire rire, bien sûr, c'est de faire réfléchir le spectateur à cette question de la diversité. Comme l'expliquaient les deux réalisateurs au micro d'Europe 1.
C'était juste pour dire qu'il faut dire noir et c'est pas un gros mot et on peut en parler, on peut se nommer. Même si finalement le film prouve que ça veut rien dire, un noir et un blanc, parce que moi je suis noir, Fabrice Eboué est noir, mais finalement on n'a rien en commun. Oui. Mais le film, voilà, met les choses sur la table, c'est des questionnements qu'on pose sur la table. On ne donne pas de morale, on veut que les gens rigolent, on veut que les gens s'amusent, et qu'à la fin, si ça peut susciter le débat, et bah bingo.
Qu'on arrête de parler de communauté noire aussi, tu vois. Comme JP l'a dit à plusieurs reprises, quand on voit les petits mouchoirs au camping, on ne dit pas que c'est un film sur la communauté blanche, donc je ne vois pas pourquoi on dirait que ce film, c'est un film sur la communauté noire.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer, notamment aussi grâce aux plateformes comme Netflix, qui imposent une remise en question à cette bonne vieille industrie du cinéma. Mais est-ce suffisant ? Ne faut-il pas imposer des quotas de la discrimination positive, comme le CNC est en train de le faire pour les femmes dans le cinéma ? Toutes ces questions, on en parle dans un tout petit instant avec notre invitée, Rokhaya Diallo, réalisatrice, éditorialiste et militante. C'est juste après James Brown dans Clap. On écoute Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. A tout de suite. Say it loud, I'm black and I'm proud. Ça fait du bien un peu de James Brown dans Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. On se retrouve dans un tout petit instant avec Rokhaya Diallo pour poursuivre notre réflexion autour de la représentation des Noirs sur grand écran.
Clap, Mathieu Charrier.
Et on poursuit donc notre récit aujourd'hui dans Clap consacré à la représentation des Noirs au cinéma. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir maintenant Rokhaya Diallo. Bonjour.
Bonjour.
Réalisatrice, éditorialiste, militante. Ça va, je vous présente bien. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres titres à rajouter.
Ça me suffit.
Bon, ça va, c'est déjà bien. Alors d'abord, première question. Est-ce que vous pensez, j'espère que vous allez me répondre oui, mais est-ce que vous pensez que les choses évoluent dans le bon sens ? Qu'aujourd'hui, les Noirs, petit à petit, sont mieux représentés au cinéma ?
Oui, évidemment, si on se place sur un temps long et même sur la dernière décennie, on peut dire que vraiment, il y a eu un accélérateur après le César de Omar Sy en 2012. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la situation qui était celle d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans. Malgré tout, si on fait un micro-trottoir dans la rue et qu'on demande aux gens d'identifier quelques noms d'acteurs et encore plus d'actrices noires, les gens quand même peinent à sortir au-delà des quelques visages qui sont déjà connus et très 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 identifiés du grand public.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'Omar Sy, personnalité préférée des Français, etc. Mais est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt ? C'est-à-dire qu'il y a lui, effectivement, peut-être Lucien Jean-Baptiste, on en parlait tout à l'heure, mais il n'y en a pas non plus beaucoup.
Bah disons que Omar Sy effectivement jouit d'une notoriété exceptionnelle hein, que pour un acteur qui est vraiment particulièrement importante, mais qu'il avait déjà acquise notamment avant même d'avoir cette reconnaissance dans le domaine du cinéma. Il y a Lucien Jean-Baptiste, il y a Aïssa Maïga également, mais c'est vrai que déjà quand on va du côté des femmes, on a plus de mal à associer des noms, enfin le grand public en tout cas, plus de mal à associer des noms avec des visages, même s'il y a des visages qui sont très récurrents, et c'est ça qui est compliqué en fait. C'est vrai que je pense qu'on a beaucoup moins de difficultés à nommer des acteurs noirs américains américain qu'à nommer les acteurs noirs français, des acteurs et des actrices. Donc c'est aussi ça qui interroge, parce que c'est pas normal qu'on ait plus de facilité à dire Denzel Washington, Will Smith, Whoopi Goldberg ou Viola Davis que des gens qui ont une proximité culturelle avec nous, qui doivent intervenir dans nos propres cinématographies.
Et pourquoi, Rokia Diallo, pourquoi en France on est si réticent à avoir des noirs qui jouent autre chose que des rôles caricaturaux?
Bah, je pense qu'il faut se poser la question de qui fait les films en France. C'est un long circuit et ce qu'on voit sur l'écran, c'est le résultat d'un processus qui est beaucoup plus long que celui de simplement projeter des personnes sur petit ou grand écran. Donc la question, c'est quels récits sont produits, qui imagine les récits auxquels nous avons accès, qui les finance et les considère comme crédibles, légitimes, et puis après, qui réalise et puis qui va faire le casting. Et donc je pense que cette question-là, c'est la question de la pluralité des regards. Et je pense que les personnes qui ont mis en scène des personnes noires de la manière la plus complexe ou la plus humaine, on va dire, souvent ont été, pas uniquement, fort heureusement, mais souvent ont été des réalisateurs ou des réalisatrices noires. Je pense par exemple à Lucien Jean-Baptiste, je pense aussi à Abdelmalik, hein, qui a fait son premier film Calam Bézit la France il y a quelques années. Donc c'est vrai qu'il y a cette question-là qui se pose, c'est que je pense qu'il y a une difficulté dans le cinéma français à sortir des cercles déjà identifiés. Et c'est la même façon que il n'y a pas tant de femmes réalisatrices que ça qui obtiennent des budgets conséquents pour faire des films. Donc pour moi, c'est une question d'inclusion, c'est une question de multiplicité des regards qu'il faut poser au-delà de la question de la représentation des personnes noires.
Et justement, vous parlez des femmes, c'est ce que j'allais vous demander. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CNC met en place dans son système de financement des quotas, notamment pour la partie technique des films. Vous pensez qu'il faut en arriver là aussi pour les personnes, même si j'élargis de couleur au sens très large ?
Bah, je pense qu'en tout cas, il faut prendre des mesures volontaristes. Et le CNC, on est venu à prendre ses dispositions grâce au collectif 50-50, qui est un collectif, le collectif 50-50, qui est un collectif de femmes dans le monde du cinéma, donc qui sont soit actrices, soit techniciennes, soit réalisatrices, etc., etc. Et je pense que c'est aussi par l'action des personnes qui sont engagées dans le domaine que les choses vont bouger. Il y a eu l'initiative Noir n'est pas mon métier, il y a 2 ans, qui avait été menée par Aïssa Maïga et avec elle 15 autres comédiennes.
Pour rappeler, elle dénonçait notamment le fait qu'on leur confiait souvent des rôles très très caricaturaux, et quand on appelait des noirs, c'était vraiment pour jouer le noir tel qu'on l'imaginait il y a des décennies.
Exactement. Bah pour les femmes noires, c'est encore autre chose. C'est un corps qui est très sexualisé, donc énormément de rôles de prostituées, de femmes extrêmement félines. Hein, c'est ce qui apparaît sur les scripts, ce que disait Sonia Roland lorsque je l'ai interviewée. Donc des choses qui sont pas très. C'est-à-dire que c'est pas un problème de jouer ce type de rôle à partir du moment où on a des options diverses, mais c'est pas encore le cas. Et je pense que on n'est pas forcément prêt en France pour mettre en place des quotas. Je sais que culturellement c'est compliqué, mais en même temps, même Maimona Interman, qui était au CSA, a dit qu'elle voit pas d'autre solution parce que ça bouge pas suffisamment rapidement. Et c'est vrai qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on peut voir dans la rue, la multiplicité des récits du quotidien des Français, et ce qu'on voit sur écran, où en fait on n'arrive pas à projeter un personnage lambda en fait qui serait noir ou d'origine asiatique, hein, c'est aussi quelque chose, je pense, dont on doit parler, qui pourrait tout simplement être le héros ou l'héroïne d'une comédie romantique absolument banale.
Et justement, vous parlez des personnes d'origine asiatique, c'est sans faire un classement, mais vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, les Maghrébins sont mieux représentés au cinéma que les Noirs ?
Je ne sais pas s'ils sont mieux représentés. Disons qu'il y a une représentation qui est peut-être plus ancienne et plus plurielle. Après, c'est vrai que le cinéma a beaucoup bougé sous l'impulsion de personnalités. Encore, il faut parler des individualités. Je pense que Jamel Debbouze a fait beaucoup. Il a fait beaucoup non seulement pour faire émerger une nouvelle génération de comédiens et de comédiennes de toutes origines. Donc le Jamel Comedy Club, pour le coup, c'était pas uniquement des personnes d'origine maghrébine, mais il a mis aussi, il a produit des films. Je pense à Indigène, je pense à La Marche, qui raconte aussi la présence des personnes d'origine maghrébine en France. Donc c'est vrai que l'engagement de Jamel Debbouze a nourri une représentation certaine, mais c'est vrai qu'en même temps, quand on pense aux acteurs et aux actrices d'origine asiatique, on pense à Lindan Pan qui a eu un César il y a une quinzaine d'années, ou à Frédéric Chau qui a écrit Made in China, mais c'est vrai que c'est une représentation qui est extrêmement pauvre. Et là, je pense qu'il y a encore un pas à faire, il y a vraiment quelque chose de volontariste à mettre en place pour que leur représentation soit enfin juste et sortie des clichés.
Et pourtant, si on regarde les chiffres, justement, concernant les Noirs, si on regarde Black Panther au niveau mondial, si on regarde même tout simplement Noir, justement, qui nous intéresse aujourd'hui, quand il est sorti en salle, malgré le contexte qu'on connaît, il a bien marché. Donc c'est des films, je dirais, qui attirent au-delà des communautés pour faire de tels scores.
Bah bien sûr, bah de la même manière que les personnes noires sont toujours allées au cinéma pour voir sur écran des personnes blanches, il n'y a pas de raison que l'inverse ne se produise pas. Les récits sont tous universels et je pense que voilà, Marvel a réussi à faire d'un héros qui est situé sur le continent africain, qui est le roi d'une nation africaine, a réussi à en faire un héros universel parmi les Avengers parce que l'histoire est forte et je pense qu'il faut faire confiance au récit. Et je crois qu'on s'est toutes et tous identifiés à des récits littéraires de personnes qui étaient situé à l'autre bout du monde parce que les récits étaient bien menés, donc il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas au cinéma. Mais je crois qu'il y a beaucoup de clichés encore. On a beaucoup, beaucoup dit dans le monde de la télévision que les gens n'étaient pas prêts. Je me souviens qu'on disait ça il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années. Et Harry Roselmack, quand il est venu présenter les 20h, c'est devenu le journaliste préféré des Français. Parce qu'en réalité, les Français sont beaucoup, beaucoup moins fermés que ce que projettent sur eux parfois les producteurs et les gens qui produisent des contenus. Donc c'est bien qu'il y ait un Jean-Pascal Zadi, c'est bien qu'il y ait aussi une Maïmouna Doucouré qui a fait ce film qui s'appelle Mignonne, qui a gagné un prix à Sundance, et d'autres qui vont arriver parce que je crois que les gens ont juste envie de voir de belles histoires. Et à partir du moment où les histoires leur parlent, eh bien, ils vont s'identifier aussi bien à Bruce Lee que à effectivement Captain America ou d'autres personnes d'origines diverses.
Et en même temps, c'est triste à dire, mais quand il y a eu la rumeur Idris Elba pour remplacer Daniel Craig dans le rôle de James Bond, il y avait eu tout plein de remarques racistes, notamment sur les réseaux sociaux.
Tout à fait, énormément de remarques racistes. Mais on voit qu'il y a une résistance et il y a une violence. Mais il faut aussi se dire que les racistes sont très bruyants, mais qu'il y a une majorité silencieuse qui est prête tout simplement à mettre de l'argent pour regarder quelque chose qui les divertit. Parce que le but du cinéma, en premier lieu, c'est quand même de divertir. C'est pas de faire une représentation strictement politique de la population, mais de faire en sorte que tout le monde ait le droit de se voir sur un écran.
Eh bien, merci beaucoup, Roca Diallo, d'être venu dans le studio de Clap aujourd'hui. Pour débattre, voilà, pour réfléchir avec nous sur cette question de la représentation des Noirs sur grand écran.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Et je rappelle donc la sortie en DVD, VOD cette semaine de Tout simplement Noir, le film de Jean-Pascal Zadi, qui vaut le coup d'être vu ou revu. Je ne sais pas si vous l'aviez vu au cinéma en juillet quand il était sorti, mais en tout cas, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de Clap. Ce sera le questionnaire Les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Johan Sfar qui a accepté de nous confier ses souvenirs de cinéma. A tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et vous êtes toujours dans Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. Vous connaissez le principe désormais, c'est l'heure des films de ma vie. Une personnalité qui répond à notre questionnaire de Proust, mais version cinéma. Et aujourd'hui, c'est Johan Sfar qui a accepté de nous rendre une petite visite à l'occasion de la sortie du nouveau tome du Chat du Rabbin. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là pour ce numéro de Clap. On y va, vous êtes prêts, c'est parti ?
Je suis prêt.
Alors, votre premier souvenir de cinéma ?
Ah, la danse des Indiens dans Peter Pan.
Mon cher Peter Pan sera un grand chef.
Et la belle Lily la tigresse dont j'étais amoureux.
C'est vrai ?
Oui.
Et vous en regardez quoi comme image ?
Les cheveux que j'ai repris dans le Chat du Rabbin et qui sont les cheveux de l'héroïne du Chat du Rabbin.
C'est elle qui vous a inspiré ça ?
Je crois. Je crois que les séfarades et les Indiens, c'est pareil, non ?
Le premier des guerriers qui s'est pris d'une jolie dame. Henri t'épousa quand il vit la mère de sa femme.
Votre meilleur souvenir en salle ?
Mon meilleur souvenir en salle, je me suis dépucelé pendant Rambo 3.
Cette mission est terminée, Rambo, tu as compris ? Cette mission est terminée !
Donc je me souviens très peu du film, mais en revanche, c'était ma première expérience sexuelle. J'avais 16 ans et demi, je suis très content.
Au cinéma ?
Au cinéma, Denis, avenue Jean Médecin.
Rien n'est terminé ! Rien ! Tout continue à cause de vous ! C'était pas ma guerre ! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi !
C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé, maintenant.
Pour vous ! Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens.
Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça.
Et Rambo, vous l'avez revu après ?
Je l'ai revu, il a toujours eu une grande tendresse pour lui.
J'imagine. Votre pire souvenir en salle, Jones, pas ?
Alors, je le regrette. Crocodile Dundee 2, je suis parti au milieu.
Il y a tout juste un mois, je l'ai emmené dans le bush. Je lui ai montré comment se servir d'un bâton pour tuer un sanglier.
Un sanglier, mais il a quoi ? Il a 9 ans ?
Ouais, bah, vous savez ce qu'on dit. Mieux vaut tard que jamais, hein.
Et pourtant, j'ai une sympathie folle pour Paul Hogan, mais c'était vraiment trop mauvais.
À ce point-là ?
Alors que le premier était formidable.
Eh bien, j'ai peur qu'il ait dit à tout le monde que vous étiez un chasseur, et que vous chassez et tuez des crocodiles.
Je lui ai dit 1000 fois. Les crocodiles sont une espèce protégée, je les tue pas. Je les attrape vivants.
Oh, mais oui. Bien sûr.
Le film culte que vous n'avez jamais vu.
Rocky Horror Picture Show. C'est très bizarre, je ne l'ai jamais vu alors que ça a tout pour être mon film préféré.
Et comment ça se fait que vous n'ayez jamais mis le DVD ?
Parce que j'habitais à Nice et quand je suis arrivé à Paris, il y avait des séances et j'avais la flemme. Et en DVD, je pense que ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est l'événement qui m'intéresse.
Le film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer.
Il y en a tellement. Si, voilà, je vais t'en donner un. J'adore râler sur le coffret des Césars. J'adore râler sur le cinéma français et faire mon vieux con cinéphile d'il y a 30 ans. Or, quand j'ai regardé Une fille facile, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre absolu. Voilà.
De Rebecca Zlotowski.
J'ai honte d'avoir aimé à ce point un film français récent.
Vous avez quel âge, on peut savoir?
Moi, je trouve que chacun a un seul âge toute sa vie.
C'est-à-dire?
On grandit puis on vieillit, mais moi j'ai dû rencontrer des âmes qui avaient 30 ans toute leur vie. D'autres qui s'arrêtent à 15 et d'autres qui attendent déjà depuis très longtemps d'avoir 50 ans.
J'aime bien cette théorie. Moi, j'ai combien alors?
Vous? Je sais pas. Faudrait que je vous connaisse mieux d'abord, non?
Le film que vous avez le plus vu, Johan Sfar?
Le film que j'ai le plus vu, c'est le Conan de John Milius, que je connais par cœur, que j'ai vu 200 000 fois. Je sais que c'est une adaptation peu fidèle de Robert Irwin Howard. En revanche, c'est fidèle aux mémoires de Gengis Khan, et j'adore John Milius.
J'avais dit que tu viendrais. Un homme du Nord. Un homme d'une très grande force. Un conquérant. Qui deviendra roi, un jour, de ses propres mains.
La plus belle scène de cinéma, selon vous?
La plus belle scène de cinéma, je ne veux pas être très original, hein. La plus belle scène de cinéma, c'est soit Mastroianni dans son bain dans 8 et demi, soit le petit garçon avec son gâteau dans Il était une fois en Amérique, où il a volé un gâteau pour aller aux putes, et il attend dans l'escalier, et comme c'est encore un petit garçon, il mange le gâteau.
Qu'est-ce que tu veux?
Qui, moi?
Ah oui, non, il y a Noodles qui m'a dit que...
Quoi?
Rien, je repasserai te voir un autre jour.
Le film que vous avez le plus vu?
Malheureusement, je crois que c'est Star Wars.
Je suis ton père.
Je crois que c'est les premiers Star Wars que j'ai dû voir 30 ou 40 fois parce qu'il fallait les connaître par cœur avec les copains et tout ça.
Ce n'est pas vrai! C'est impossible!
Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai.
Non! Non!
Le film que vous avez fait le plus rire?
Le film qui me fait le plus rire, Frankenstein Junior. Je suis sous le fauteuil à chaque fois. Quand il dit Frau Blücher et qu'il y a un éclair, quand sa femme lui dit que c'est du taffeta et qu'on ne peut pas toucher sa robe, quand le type prend le cerveau de monsieur A normal et qu'il le met dans le monstre, surtout quand le monstre de Frankenstein danse sur Putin on the Ritz. Je suis un fou de Mel Brooks. Je suis quelqu'un qui déteste le second degré et Mel Brooks, c'est du premier degré absolu. C'est con comme un Bugs Bunny et j'aime rien autant que lui.
Une chose me tracasse malgré tout. Je n'ai pas très bien compris ce qui était arrivé pendant cette opération. Tu sais, quand tu as fait ce transfert, le monstre a eu une partie de ton merveilleux cerveau. Mais toi, qu'as-tu pris en échange?
14h-15h sur Europe 1. Clap. Mathieu Charrier.
Un dialogue de cinéma que vous connaissez par cœur.
Qu'est-ce que je connais par cœur au cinéma? Pas grand-chose, j'oublie tout. Puis quand j'essaie de citer, je cite mal. Et non, je connais rien par cœur, malheureusement. Je lis des scénarios de cinéma, je relis du Henri Janson, je relis du... Qu'est-ce que je relis? Je relis du Tarantino. Tarantino est un formidable écrivain de cinéma et il ne fait pas que de la citation, contrairement à ce qu'on dit. Mais non, je ne connais pas grand-chose par cœur.
Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami?
Mon meilleur ami? Un éléphant, ça trompe énormément. Ou quoi que ce soit avec Dabadi ou Yves Robert, quelque part.
Un éléphant, ça trompe énormément. C'est l'histoire très agitée des démêlés de certains hommes avec certaines femmes qui ne sont pas nécessairement les leurs, si on dînait.
Tu veux pas faire l'amour maintenant, quand même?
Me troubler.
Oui, mais c'est aussi l'histoire très agitée des démêlés de certaines femmes avec certains hommes qui ne sont pas nécessairement les leurs.
Mais arrête! Arrête!
Et votre pire ennemi?
Mon pire ennemi? Oh, les films qui ont des prix, on ne sait pas pourquoi, que sur lesquels tout le monde fait des compliments parce qu'on ne veut pas passer pour des cons. Mais en réalité, un jour, on va s'avouer que personne n'a aimé.
Exemple?
Non, je ne dis pas de mal des collègues. Ce n'est pas des collègues, d'ailleurs. C'est des gens qui devraient faire autre chose.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
Ma séance un truc à Gérardmer. Il y avait une projection d'un film d'horreur et les gens sont vraiment tombés dans les pommes parce qu'on voyait une aiguille qui entrait dans un œil et il y a des gens genre jurés de films d'horreur, mais tu sais, on prend des gens de la société civile, ils n'ont jamais vu un film d'horreur, tu le crois qu'il y en a un qui est tombé dans les pommes, mais je ne dirais pas qui.
Et la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Ah, qu'est-ce que ça peut être? Yentel, dès qu'il y a Barbara Streisand, ça va être... Non, dès qu'il y a Barbara Streisand. Yentel, sans doute.
Merci d'être venu dans le club, me rendre une petite visite. Je rappelle votre actu, Le Chat du Rabbin, tome 10, qui est en librairie. Comme on a le temps de lire en ce moment, ça tombe bien. Et puis, Petit Vampire, qui venait de sortir au cinéma, on en avait parlé dans cette émission, et qui ressortira, on l'espère, quand les salles rouvriront.
Merci beaucoup.
Et on se retrouve nous dans un tout petit instant pour la suite de Clap. Le temps d'accueillir mes collègues critiques. Et on va débattre, évidemment, non pas des films sortis en salle, mais de tout ce qui sort en DVD, VOD, sur les plateformes. Voilà, on vous dira quoi regarder. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier.
Et ils se sont installés en studio, masqués bien sûr, autour de la table aujourd'hui, Marilyn Letertre de Madame Figaro et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Marilyn.
Bonjour Fabrice, bonjour,
bonjour Mathieu.
On débat aujourd'hui d'un nouveau remake de Rebecca, ça c'est sur Netflix, tout comme La vie devant soi, adapté du roman de Romain Gary, et du premier film, vous en avez sans doute entendu parler, du premier film de confinement qui s'appelle Connecté. On commence donc par Rebecca, adaptée par Ben Whitley du roman de Daphné du Maurier, 80 ans déjà après Alfred Hitchcock. C'est d'ailleurs ce film qui lui avait permis de décrocher le seul Oscar de meilleur film de sa carrière. Extrait de ce Rebecca.
Nous donnions beaucoup de réceptions lorsque feu Madame de Winter était en vie. Elle est toujours là. Vous sentez sa présence.
Tu as été agitée toute la nuit.
Rebecca.
Rebecca, tu as fait un cauchemar.
Rebecca était l'amour de sa vie. Je me demande ce qu'elle pense de vous. Vous qui lui avez volé son époux et jusqu'à son nom.
Et cette fois, le film est porté par Lily James, Hermie Hammer et Christine Scott Thomas. L'histoire, elle, reste la même et commence toujours par une idylle entre une jeune femme d'une vingtaine d'années et Maxime de Winter, veuve qui a deux fois son âge à peu près, riche propriétaire du domaine de Manderley dans les Cornouailles. Ils se marient au bout de quelques jours, mais ça va se gâter lorsque la jeune mariée vient s'installer dans ce manoir alors que le fantôme de Rebecca, donc l'ex-femme morte, rôde toujours, entretenue par cette gouvernante terrifiante. C'est un film qui dure un peu plus de deux heures, sur fond de féminicide notamment. Question Marilyn, est-ce que ça a vieilli? Est-ce que ça fonctionne toujours?
La question n'est pas tellement celle-ci. Je pense que la question... Je pense, pardon. Je pense que la question, c'est...
Pourquoi un nouveau remake?
Voilà,
je vous connais.
Surtout qu'en fait, là, on fait exactement le parallèle avec l'histoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme qui est sans cesse comparée à la femme qui l'a précédée. Et bien là, il est très difficile de ne pas comparer au film qui l'a précédée. Et en l'occurrence, le film d'Hitchcock est évidemment un monument. Et ce film est plutôt assez proche d'un nanar. C'est-à-dire que les acteurs sont vraiment pas charismatiques. Enfin, là, je parle pour Armie Hammer et Lily James. Mais pas Christine Scott Thomas, qui pour moi est la seule qui tire son épingle du jeu et qui arrive à donner toute l'ambiguïté qu'il faut au personnage. Mais à côté de ça, c'est quand même très mou. Alors, en revanche, la DA est très soignée. C'est très beau. La direction artistique est très soignée. C'est très, très beau. Mais on s'ennuie, c'est mou, c'est plat, il n'y a pas d'enjeu. Ils ont le charisme de deux poireaux. Enfin, moi, franchement, je n'achète pas du tout.
Fabrice Leclerc, les poireaux, vous en faites quoi?
Ben moi, je fais des soupes l'hiver parce que ça réchauffe. Non, je ne suis pas aussi, aussi méchant que Marilyn. D'ailleurs, tout le monde le sait. Non. Ce que je veux dire, c'est pourquoi l'idée d'un remake? Alors voilà, ça, moi, je ne l'aurais pas fait.
C'est pas
un navet, c'est très académique. C'est très bien fait, visuellement. C'est plutôt extrêmement, extrêmement beau. Moi, ce qui me manque vraiment par rapport, alors évidemment, au film de Hitchcock, parce qu'on ne peut pas ne pas le comparer, c'est ce côté vénéneux qu'avait le film d'Hitchcock, notamment grâce au personnage de la gouvernante, incarné par Christine Scott Thomas, où il y avait toute cette notion de sexualité non assumée, voilà, de méchanceté rentrée. Et là, ça a totalement disparu dans le film. Alors oui, ça tient uniquement avec Christine Scott Thomas, qui est absolument étonnante dans le film. Après, ça se laisse regarder sans peu d'intérêt, mais ça se laisse regarder quand même. C'est pas un nanar. Moi, des nanars, je peux vous en citer si vous voulez.
Oui, c'est Rebecca.
Si on doit choisir, vaut mieux revoir le Shadow of Hitchcock ou ce film-là?
Évidemment, Hitchcock.
Alors, on se fait les deux, sinon, remarquez, mais pour faire la comparaison. Rebecca, ça c'est sur Netflix.
Clap.
On reste sur Netflix, puisque les salles sont malheureusement fermées, avec La vie devant soi qui signe le retour de Sophia Loren sur grand écran, 11 ans après avoir quitté les plateaux de cinéma.
Il paraît que tout est écrit et qu'on peut rien changer. Je m'appelle Momo, je suis orphelin. Je veux tout changer. L'humanité n'est qu'une virgule dans le grand livre de la vie.
Momo !
Mais quand Madame Rosa me regardait avec ses grands yeux noisettes, elle n'était pas qu'une virgule. Mais le grand livre tout entier.
Alors, je dois vous préciser que Sophia Loren retrouve les plateaux de tournage pour cette adaptation du livre de Romain Gary, tout simplement parce que son film est réalisé par son fils, Eduardo Ponti. C'est une adaptation contemporaine du livre, puisque l'action ne se passe pas à Paris, mais à Bari, en Italie. C'est l'une des portes d'entrée vers l'Europe pour beaucoup de migrants, parmi lesquels Momo, c'est un ado de 14 ans qui débarque du Sénégal. Il survit grâce au vol et au deal, jusqu'au jour où il va être confié à Madame Rosa, Sophia Loren, donc, qui va essayer de lui redonner goût à la vie et de le ramener dans le droit chemin. Fabrice Leclerc ?
Alors, Madame Rosa, évidemment, on se souvient tous de Simone Signoret, La vie devant soi, le film qui a marqué quand même plusieurs générations de cinéphiles. On est extrêmement heureux
de retrouver...
Vous allez
encore me dire que l'autre était mieux.
De retrouver... Je peux terminer, Mathieu ?
Allez-y.
Non, mais mince. Non. On peut se dire que Sophia Loren est absolument... On est déjà heureux de la revoir et absolument étonnante dans ce film. Comme quoi, une grande actrice, ça ne vieillit jamais. Après, là encore, je vais peut-être faire un peu comme a fait Marilyn tout à l'heure. C'est pourquoi tous ces changements ? Pourquoi réinterpréter le bouquin de Gary ? Pourquoi enlever des choses qui sont essentielles ? L'enfant, il n'est plus là pendant des années. Il est là que pendant 3-4 ans. La guerre des gangs. On essaye d'actualiser ça un peu. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, c'est un film qui, à la base, devait sortir au cinéma, parce qu'il a été acheté par Netflix quasiment à la fin du tournage. On comprend bien que Sophia Loren était heureuse de travailler avec son fils. C'est pas le plus grand metteur en scène du monde, on va le dire quand même. Après, Si vous n'avez pas vu le film de Moshe Mizrahi, c'est un film qui va vous, voilà, qui va quand même vous toucher. Après, là encore, on est loin de l'original.
La vie devant soi, Marilyn Le Tertre.
Je ne peux être que d'accord avec Fabrice.
Ils aiment rien. Ils sont chanchons parce que les salles sont fermées.
Non, c'est pas que j'aime rien, c'est que effectivement, la grande question, Fabrice l'a soulevée, c'est pourquoi. cela dit, je suis aussi d'accord avec lui. Si on n'a pas vu le précédent, enfin celui avec Simone Signoret, ou même, je pensais moi, à Myriam Boyer, que j'avais vu jouer ça sur scène au théâtre et c'était absolument magistral. Bon, là, on peut y aller. C'est-à-dire, pourquoi pas le voir avec ses adolescents, par exemple, pour ensuite les amener vers le bouquin. Ou alors, s'ils ont vu le bouquin, une petite étude comparative. Ils feront leur propre regard. Mais Sophia Loren est effectivement assez dingue dans le film. Ouais. Pas du tout apprêtée. Voilà, elle assume davantage son âge. Voilà, et elle le joue bien. Mais il y a effectivement un problème aussi d'adaptation pure. C'est que énormément de moments très très forts du bouquin ont disparu parce qu'il y a trop d'ellipses. Ouais. Et effectivement, le cœur du problème, à mon avis, le nœud, c'est qu'on ne comprend pas tout à fait la relation qui se tisse entre cette femme et cet enfant, puisque dans le bouquin, elle l'a depuis qu'il a 3 ans, je crois. Mmh. Et là, il débarque chez elle, il a 12 ans. Donc, et là, il y a des ellipses de dingue. Donc, au début, ils se font la guerre. Et puis, très très vite, ils s'adorent, les meilleurs copains du monde. Et on se dit, oh là, ça allait trop vite, on ne comprend pas. Du coup, évidemment, eh ben, on est moins touché.
Et ben voilà, pour La vie devant soi, ça aussi vous trouvez ça sur Netflix. Clap. Et on y vient donc, on en avait annoncé beaucoup des films de confinement. Voilà le premier sur vos écrans, ça c'est sur Prime Video, la plateforme d'Amazon, ça s'appelle Connecté.
Hey, salut tout le monde.
Salut Sarah.
Salut Sarah.
Ok, donc la meuf elle sort avec, quoi, 21h30.
On a son verre. Ah, on a choisi. Attendez, je reviens.
En tout cas, santé.
Ah, ça sonne chez qui?
Il n'y a pas de soleil chez moi.
C'est une nouvelle drogue.
Qu'est-ce que tu veux?
Là, ça pue.
Non, Julie.
Il n'y a que chose de son temps.
C'est la merde.
Alors, je vous donne d'abord le casting, parce qu'il y a à peu près tout le cinéma français. François-Xavier Demaison, Michael Youn, Audrey Fleurot, Stéphane De Groot, Claudia Tagbo notamment. Ils se retrouvent un samedi soir pour un apéro confiné, vous savez, en ligne, avec toutes ces plateformes qui existent. Chacun derrière son écran d'ordinateur ou de smartphone. Lorsque, soudain, l'un des leurs est agressé sous leurs yeux, puis séquestré par un homme très étrange, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va les faire chanter, en quelque sorte, et surtout révéler leurs secrets les plus intimes, car oui, il les connaît. Marilyn, j'ai envie de commencer par vous donner la parole.
Pourquoi vous riez ?
Je sais ce que vous en pensez de ce film. Je vais essayer de le défendre un petit peu quand même. Mais allez-y d'abord, donc Connecté.
Alors déjà, je n'irai pas dans la caricature dans laquelle vous m'attendez. Donc, alors, que dire de Connecté ? Que l'idée de départ est amusante, elle est bonne. Parce que c'est une espèce de cluedo par écran interposé. Donc, qui a enlevé donc, l'ami de cette bande qui
Pascal
se retrouve... autour d'un apéro digital. Voilà, donc ça, c'est amusant, ça pique la curiosité. Il y a des bons moments, assez drôles, il y a quelques idées. Le problème, c'est que très vite, il est prisonnier du concept et la mise en scène, notamment, est un petit peu plate. Et au bout d'un moment, on trouve que ça tourne un petit peu en rond. Et par ailleurs, l'interprétation est un peu inégale. Et je pense qu'avec un concept aussi difficile que des mecs devant leur écran, que nous-mêmes on va regarder devant notre petit écran, il faut vraiment une interprétation cordeau. Et donc il faut des acteurs extrêmement bien dirigés. C'est pas le cas pour tous.
Il faut dire qu'ils ont tourné chacun de leur côté en quelques heures.
Exactement, mais peut-être que c'est ça le problème. Ça a peut-être été fait dans la précipitation. On voulait le sortir vite, après le confinement. Et voilà. Et du coup, on est à même de se demander si ça n'aurait pas été mieux en court-métrage, finalement. Voilà. Ou alors prendre un petit peu plus le temps de diriger et de produire pour avoir un résultat plus abouti.
Fabrice Leclerc, il faut quand même dire que moi je trouve en tout cas, oui, ce que vous dites, c'est pas très bien joué, etc. Mais le suspense tient à peu près jusqu'au bout.
Alors, je suis pas d'accord pour le coup. Moi, j'attendais le premier film sur le confinement avec ces apéros d'une plateforme dont on va pas parler, mais qu'on a tous fait au printemps. Moi, je l'attendais, ce film-là. Et puis, c'est une vraie bonne idée, puis une fausse bonne idée en même temps. Pourquoi ? Parce que la bonne idée, c'est de prendre ce procédé de film en zoom avec des écrans du split screen, comme on le dit, des écrans éparpillés, une discussion entre des amis. Moi, je m'attendais, vous voyez, à une diatribe des copains, comme un film comme Le Prénom, par exemple. Et on se retrouve dans un espèce de polar dont on n'a rien à faire. La fin, le film ne se termine pas, d'ailleurs,
non,
tellement il
n'a
pas envie de se terminer. Et à un moment, on se dit, mais pourquoi il n'est pas resté sur ces comédiens, qui sont plutôt de bons comédiens. Je trouve que Claudia Tagbo est totalement à côté tout le film. Enfin, ça, c'est mon avis. Pourquoi être, pas être resté sur une comédie un peu rentre-dedans, ou voilà, parce que c'est un film sur le mensonge, tout le monde ment à tout le monde, et voilà, et finalement tout le monde se retrouve dans le mensonge de l'autre. Mais pourquoi être parti sur ce polar qui est quand même légèrement ridicule, le personnage qui incarne, je vous dirai pas qui c'est. Enfin, c'est gros comme une maison, on l'a reconnu au bout de 3 minutes 30, donc voilà, pour l'effet de surprise, c'est raté. Non, vraiment, super bonne idée, mauvais scénario, en tout cas pas bonne idée de scénario. À la fin, là aussi, ça se laisse regarder, mais c'est quand même extrêmement
possible. Mais c'est ce que j'allais dire, vous êtes chez vous le soir, vous ouvrez une de vos plateformes, ça dure 1h25, et ça se regarde.
Oui, non, on peut faire un apéro digital avec ses copains aussi.
Oui. Ou vous regardez en faisant un apéro.
Oui.
Allez, bien. Voilà, tout le monde est d'accord. Ça s'appelle donc Connecté et vous trouvez ça sur Prime Vidéo.
Clap.
Et pour finir, puisqu'on a le temps en ce moment de regarder et de revoir ou revoir des films qui sont sortis il y a quelques mois, je vais vous demander chacun un petit coup de cœur, un petit conseil, Fabrice Leclerc.
Alors moi, je vais vous donner un petit conseil. C'est un film qui devait sortir en salle début novembre, alors qui est montré à quelques moments sur Facebook, dans des Facebook Live, vous pouvez vous connecter. Le film s'appelle Basta Capital. C'est une espèce de folie furieuse sur un film altermondialiste, révolutionnaire, à nous la révolution. C'est l'histoire de révolutionnaires qui vont kidnapper tous les responsables du CAC 40 pour faire plier le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est totalement barré, mais c'est tellement drôle et tellement excessif que ça finit par faire adhérer le spectateur. Alors le film sera visible sûrement en novembre dans plusieurs Facebook Live, donc il faut taper Basta Capital sur votre moteur de recherche et vous verrez si le film est proposé. Je vous le conseille parce que vous soyez de droite, que vous soyez de gauche ou des extrêmes, c'est quelque chose qui va vous faire rire finalement. Et c'est bien de rire avec un postulat politique, je trouve.
Basta Capital, Marilyn Le Tertre.
Alors moi, j'ai aussi choisi quelque chose de léger, parce que comme dit Fabrice, ça fait du bien de rire en ce moment, donc un truc feel good. C'est une série, c'est Cobra Kai. Parce que Cobra Kai nous ramène dans les années 80, c'est sur Netflix, et en fait, c'est la suite de Karate Kid en série. Donc c'est Karate Kid dans lequel les héros ont pris 30 ans dans la tronche. Donc le héros qui avait gagné son combat retrouve son rival d'alors et se font encore la guéguerre et ses deux grands gamins. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que ça convoque plein de souvenirs pour les gosses qui ont vu ça, les ados dans les années 80. Et en même temps, ça met complètement ces deux mecs qui ont aujourd'hui 45 piges face à leur ringardise par rapport aux codes actuels et voilà. Et ça fait du bien, c'est fun, c'est un retour en enfance ou en adolescence. Et moi, j'ai pris un plaisir total à regarder ça, donc Cobra Kai sur Netflix.
Cobra Kai et Basta Capital, voilà pour leurs conseils. On a aussi parlé de Connecter, de La Vie Devant Soi et de Rebecca. Vous retrouvez tout ça sur Netflix, Prime Vidéo. Notamment, merci Marilyn Le Tertre, Madame Figaro. Merci Fabrice Leclerc de Paris Match.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Clap, toujours sur Europe 1, 14h-15h. D'ici là, n'hésitez pas à nous podcaster. Vous tapez Clap sur toutes vos bonnes applications. Une émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, 14h-15h sur Europe 1 pour un nouveau numéro de Clap.
Europe 1.